Arrêt 2. L'image satellitale et puis aussi la présentation générale de l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne ophiolitique, de la nappe ophiolitique. Bon, cette nappe ophiolitique, on la retrouve aux Émirats et en Oman, le long du golfe d'Oman. On sait qu'elle est le résultat de l'obduction de la croûte océanique iranienne sur la plaque arabique pour la fermeture de la mer Tétis, dont vous avez étudié l'ouverture l'année dernière en sortie. La fermeture dans le golfe d'Oman se perpétue encore pour 2-3 millions d'années, puisque vous voyez qu'il est indiqué ici une subduction qui correspond au prisme d'accrétion du Makran. Prisme d'accrétion, c'est le remplissage d'une fosse par les sédiments. Barbade, si vous avez regardé le corrigé, en était un exemple. C'était le supplément au TP1. Et donc toute cette partie-là, en fait, c'est la fosse de subduction qui s'est remplie. Et maintenant, donc, les sédiments sont au-dessus du niveau de la mer et forment la région du Makran, à la limite entre l'Iran et le Pakistan. Donc là, la mer Tétis ne s'est pas encore complètement fermée. La subduction va dans ce sens-là. Par contre, de l'autre côté, c'était une obduction, c'est-à-dire que la croûte océanique iranienne est passée par-dessus et est montée sur la plaque arabique. C'est ça que vous avez étudié l'année dernière quand vous avez fait la coupe qui allait de Dubaï à Kalba. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux mouvements tectoniques, tout en renvoyant un petit peu quelques notions des sédimentations océaniques. Alors voilà la situation régionale. Sur cette carte en face, on a une présentation beaucoup plus détaillée de la région. Nous nous trouvons à peu près à la hauteur de Aden, qui ici est écrit Eden. On est juste en face. On est dans le blanc, à peu près au-dessus du mot Kamar. Donc nous aurons en face de nous toute une zone qui s'appelle la zone de Diba. Vous voyez que cette zone de Diba est une zone, on va le voir, perturbée parce qu'il y a beaucoup de failles, avec au sud le massif ophiolitique qui est marqué en pointillé, et au nord, Moussandam, c'est-à-dire un relief calcaire, de plateforme qui s'est donc déposée sur plusieurs milliers de mètres sur la plateforme de l'océan Tétis. Tout cela, ce n'est que du calcaire sur plusieurs milliers de mètres. Actuellement, les sommets dépassent 2000 mètres, mais l'épaisseur du calcaire est supérieure à 2000 mètres. Donc là, on est dans une zone de transition avec d'un côté la croûte océanique au sud et la plateforme océanique au nord. Et au milieu, c'est très perturbé, ça s'appelle la zone de Diba, qui va de Aden jusqu'à Diba. Bon, par ce schéma, je vous rappelle un peu quelle est la structure d'un océan. Vous avez au centre, il y a la dorsale médiane, qui s'appelle ridge en anglais. C'est là que donc se forme la croûte océanique avec sa structure harsburgite à la base, c'est-à-dire un manteau appauvri, du gabbro au-dessus, un complexe filonien et au sommet des pilots lava. Je donne la structure principale. Cette croûte océanique est soudée au continent au niveau du talus continental. Le talus continental, c'est la limite du continent. En haut du talus se trouve ce qu'on appelle la plateforme. C'est, lorsqu'un océan s'ouvre, la marge passive. Et c'est sur cette marge passive que se déposent les sédiments calcaires. Alors le gros problème qui se pose, bien sûr, toujours, c'est que cette plateforme ne dépasse pas quelques 150, 200 mètres, 250 mètres de profondeur, mais que généralement c'est plutôt 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres de profondeur. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir 3 km de sédiments calcaires qui se disposent dans si peu d'eau. Ça va donc nous obliger à imaginer qu'au fur et à mesure que les sédiments se déposent, ils entraînent l'enfoncement de la plateforme. Et donc, ça peut être régulier, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les sédiments se déposent, la croûte s'enfonce et ainsi, ça permettra des dépôts qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur dans une eau qui est de quelques mètres de profondeur. Si je passe maintenant à la vue satellitale, générale, nous avons passé donc tout le complexe du nerf et nous sommes dans cet éventail de gravier, un glacis, et on voit que ces graviers sortent tous d'une bouche qui est dans la montagne, la vallée de deux wadis qui se rejoignent. Et donc tout le matériel sur lequel nous sommes assis en ce moment, c'est le matériel d'érosion transporté par ces wadis au moment des grandes crues. Et qui forme donc cet énorme éventail à la sortie. Donc on a un système qui est étroit à la sortie de la montagne et qui est divergent ensuite. C'est un peu le contraire de ce que nous connaissons dans les régimes hydrauliques des régions tempérées où les affluents se jettent dans les fleuves et c'est un régime convergent. Là, à la sortie de la montagne, on a un régime divergent. Ça ressemble un peu à un delta. Et d'ailleurs, l'eau se perd dans cette sorte de delta. Elle se perd entre les graviers. Elle coule en profondeur. Et elle forme une grande nappe phréatique. Et bien sûr, l'homme a réussi assez vite, dès l'âge de bronze, mais surtout après à l'âge du fer, à pouvoir puiser cette eau et installer des oasis et donc une présence permanente. Alors la présence permanente sur Ras El Khaïma est extrêmement importante. On y trouve des tombes depuis il y a 5000 ans, justement dans cette région-là, au nord de la photo. Alors dans cet éventail de glacis d'érosion, je vais retrouver bien sûr des roches qui viennent des montagnes. Alors, puisqu'on est à la limite, si c'est les montagnes du sud, ça sera des harzburgites ou des gabbros. Si c'est les montagnes du nord, ça sera des calcaires ou des roches de sédiments des fonds océaniques profonds. Alors, un galet gris, c'est un calcaire gris foncé, organique. Bon, dedans, il y a un filon, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez, cette couleur grise est liée à de la matière organique qui colore la boue calcaire. Ensuite, un calcaire gris clair, contenant des argiles, donc côtier. Une boue calcaire argileuse, côtière, qui est venue se déposer. Au toucher, vous avez ce toucher doux de l'argile qui est contenu à l'intérieur. Une roche rouge siliceuse. Alors ça, nous sommes, on le reverra tout à l'heure, devant les dépôts siliceux des grands fonds océaniques, parce qu'on sait que dans les grands fonds océaniques, eh bien, le calcaire se redissout, les enveloppes calcaires du plancton, quand elles descendent à des profondeurs de 3, 4, 5 000 mètres, se redissolvent ensuite, parce que il n'y a pas de photosynthèse. Et donc, il n'y a pas de consommation de CO2, et donc, elles se redissolvent. Par contre, la silice, et donc tout le plancton siliceux, lui, va déposer ses enveloppes siliceuses. Ce plancton siliceux appartient à la famille des radiolaires. C'est le nom de ce plancton siliceux. On parle alors d'une roche rouge qui s'appelle radiolarite. C'est écrit dans tous les livres. Bon, à condition, bien sûr, au microscope, d'y voir encore les enveloppes siliceuses. La plupart du temps, on ne les voit pas parce qu'elles ont été dissoutes puis recristallisées. Alors, on prendra à ce moment-là plutôt la dénomination anglaise de chert rouge. Chert, C-H-E-R-T. Ils sont beaucoup plus riches en vocabulaire que nous. Quand c'est des dépôts fins et laminés rouges, liés à de l'argile, ils appellent ça shell. S-H-A-L-E. Alors on verra des fois des shells rouges, mais là c'est du chert rouge. C'est des dépôts donc océaniques, profonds. Donc la preuve qu'on était au fond d'un océan entre 3000 et 5000 mètres. Donc on est bien dans le... Là, on a la preuve que dans ce qu'on va rencontrer à la sortie de ce wadi, on va avoir donc des éléments provenant de la plateforme. Ça, c'est les reliefs du nord. Des éléments provenant des océans profonds et des éléments provenant de la croûte océanique elle-même. On a ici une juxtaposition d'éléments qui seront la croûte océanique, les éléments de la plateforme et les éléments du fond de l'océan. Tout ça quasiment au même endroit, sur quelques kilomètres. C'est pour ça qu'on choisit cet endroit-là, pour parler de convergence. Parce que si je retrouve des éléments qui apparemment géographiquement étaient distants de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, et que je les trouve maintenant sur quelques kilomètres, c'est la preuve qu'il y a eu convergence.